Voilà, alors donc, merci de m'avoir convié à cette grande revue du Carnaval des Hérésies. Donc moi, je me situe à la fin de ce que Benoît XVI appellerait la fin de l'époque patristique selon Benoît XVI, c'est-à-dire au moment où on approche, hein, avec lui, il fait terminer la patristique avec plutôt avec Jean Damascène qu'avec Saint Bernard, et une hérésie assez complexe en réalité, à laquelle va répondre le septième des grands conciles œcuméniques de l'Église indivise. Et qui en même temps, c'est intéressant de s'y intéresser parce que c'est un concile qui est un peu un mal-aimé, autant les autres définitions conciliaires sont très étudiées, autant celle-là est considérée comme un peu faible théologiquement. En tout cas, c'est la thèse notamment de Christophe Schönborn, puisque voilà, le livre classique, hein, sur l'hérésie iconoclaste et sur la solution qu'on a pu y apporter, s'intitule L'icône du Christ. Et voilà, je vous le montre juste parce que c'est pas mal d'avoir les voilà, donc de Schönborn, qui est vraiment le grand classique sur ce thème-là, et qui va conclure à la fois à une résolution de l'hérésie et en même temps au fait que Nicée II ne constituerait qu'une étape sur ce chemin, et que celui qui va vraiment apporter une solution, eh bien, ce sera en fait grâce à Maxime le Confesseur, alors quelqu'un dont évidemment le nom m'échappe parce que je suis fatigué. Je me suis couché à 2 h du matin pour accompagner mes. Alors attendez, je vais retrouver ça. Sinon, il y a Florent en ligne qui peut toujours m'aider, hein. Où est-ce que c'est? Donc, ce n'est pas Saint Jean Damascène, évidemment, c'est celui qui va résoudre les choses. Ce n'est pas Nicéphore,
Je pense à Théodore Studite.
c'est Théodore Studite. Voilà, merci Florent, parce que là j'ai ma mémoire flanche avec le. Voilà, mais donc, ça c'est un peu la thèse de Christophe Schönborn. Alors. C'est une hérésie qui est complexe. Donc moi, je vais essayer de vous retracer un peu le cours de cette hérésie. Et en même temps, ce qui est un peu particulier, c'est que moi, la solution, enfin, ce que ma thèse, hein, et mon regard là-dessus est relativement du coup minoritaire dans l'interprétation de la position orthodoxe. Voilà. Et en même temps, donc c'est une hérésie, si vous voulez, qui justement a énormément façonné dans ces diverses méandres, dans ces divers méandres plutôt, la réponse qu'on a cherché à y apporter. Et du coup, ça rend assez difficile une clarification. Voilà, donc moi j'ai essayé de m'y employer à mon petit niveau, mais donc je vous cache pas que c'est sûr que à la fois je vais tenter de vous exposer un petit peu l'hérésie telle qu'on la retrace, et en même temps je vais aussi vous présenter une position, je vais vous présenter la position de Schönborn, puis je vais présenter la mienne, qui est une position relativement minoritaire puisque à peu près elle se résume à moi dans l'interprétation de la position orthodoxe. Alors, tout d'abord, il me semble important de dire un tout petit peu le minimum historique qu'on peut retracer et qui n'est pas si facile à retracer au sujet de cette hérésie. En réalité, donc, c'est des périodes qu'on a quand même beaucoup de mal à reconstituer. Alors, normalement, je vous partage un écran qui devrait faire apparaître quelques dates. Voilà. J'espère que vous le voyez bien. Donc les quelques dates sur lesquelles on peut être à peu près sûr, et donc qui vous donnent une sorte de déroulement de la crise, c'est que donc en 717, après une série de remous dynastiques un peu compliqués, advient au trône un ancien général, hein, de l'armée byzantine, qui s'appelle donc Léon III l'Isaurien, hein, qui va inaugurer une dynastie, qui va occuper la place en fait jusqu'à Constantin VI, le fils d'Irène, dont nous reparlerons après. Donc là, je vous dis un peu les certitudes qu'on a. Donc en 717, Léon III l'Isaurien accède au trône, et progressivement c'est lui qui va de plus en plus donc instaurer, en tout cas se mettre à détruire les images et à considérer qu'elles ne sont en tout cas qu'elles sont une forme de risque d'idolâtrie, hein, pour faire bref. Je vous donne un peu les dates à la suite, et ça permettra un petit peu. Et donc le déclenchement de la crise, ça va être Alors, un événement qui est largement débattu parmi les historiens, mais on dit que c'est le fait que l'icône du Christ de la Chalcée, donc qui était une des portes à Constantinople, aurait été retirée à ce moment-là. Et finalement, en 730, le patriarche Germain de Constantinople, qui était iconophile, a été contraint à la démission. Alors, le décrochement de l'icône, on n'est pas très sûr que ce n'est pas une reconstitution a posteriori faite par les iconophiles quand ils ont gagné. Mais en gros, on est sûr, en tout cas, que le patriarche de Constantinople lui a été déposé pour mettre à sa place des patriarches iconoclastes en accord avec la volonté de l'empereur. Autre grande date de l'histoire de cette hérésie, c'est 741, la mort de Léon III, auquel va succéder Constantin V. Constantin V, qui est une forme d'empereur un peu théologien à sa manière, qui va écrire ce qu'on appelle les interrogations. Donc, elles ne datent pas de 741, mais elles sont postérieures à 741. C'est pour ça que je vous les ai mises à la suite de la mort de Léon III. Et donc, ce sont il y a une forme de… Oui, c'est un empereur qui se veut un peu théologien et il va émettre un certain nombre d'objections aux icônes, à la possibilité de l'image plus précisément. Un certain nombre d'objections sur lesquelles on pourra revenir, dont je vous parlerai peut-être un petit peu, mais là, on va faire une traversée très, très rapide, donc on pourra peut-être y revenir éventuellement dans les questions si vous voulez que je vous lise un texte précis. Mais en gros, ce qui est très intéressant, c'est que ces interrogations, parce qu'elles nous fournissent du texte, parce qu'elles ont été en partie conservées, eh bien, elles vont prendre une importance historiographique très forte, en réalité. Et je dirais que c'est un peu un des problèmes de cette hérésie, c'est que le peu de textes qu'on a qui sont disponibles, eh bien, ont parfois provoqué des virages ou des points d'attention de l'historiographie peut-être plus importants qu'il n'aurait fallu. Mais en tout cas, donc voilà, cet empereur théologien ou would-be theologian, comme diraient les Anglais, hein, enfin qui se prétend tel, va écrire un certain nombre d'objections, voilà, et il va faire convoquer donc un synode iconoclaste dans la ville de Yéréa, pas très loin de Constantinople, où donc toute une série d'évêques qui ont fini par être qui ont remplacé les évêques iconophiles vont là encore dire qu'ils ont entériné par un concile, donc qui se prétend œcuménique, la fin de l'idolâtrie l'établissement donc d'une orthodoxie à travers la destruction de toutes les images. Constantin V va mourir et laissant un fils, Constantin VI. Et en fait, c'est sa femme, donc Irène, qui, elle, en fait, était tout à fait iconophile et qui va, en 787, donc après divers remous, convoquer ce septième concile œcuménique de l'Église indivise qui va se prononcer pour la préservation des images. Alors, si je vous dis, là, je peux vous dire très rapidement aussi comment, de manière classique, on dit qu'il se prononce. Hein, on résume les trois propositions de ce concile à celle-ci. On dit que donc on réaffirme le caractère profitable des images pour la foi de l'Église. On va dire donc qu'il faut les exposer partout, anatitestai, hein, donc on va les mettre absolument partout, sur les chemins, à la croisée, au-dessus des portes. On demande vraiment une exposition des images un peu partout. On va leur vouer aponémein, baiser et prosternation, donc on va leur vouer les actes du culte, les actes de la vénération, et on va leur offrir encens et parfums, prosagogen poieistai, donc on va faire toute une série donc d'actes, et c'est ça qu'on conserve en général, c'est ça qui est reproduit dans le Denzinger, si vous allez voir un petit peu dans cette espèce de compendium de la théologie à quoi se résume le concile de Nicée II, on va le dire que ça se résume à ces trois injonctions qui se justifient par le fait que dans le culte qui est rendu à l'image, en réalité, c'est le prototype que l'on adore, en réalité, l'image est seulement reçoit seulement une vénération relative au prototype lui-même. Donc voilà ce que dit ce concile. En réalité, ce concile n'a pas signé la fin immédiate de l'hérésie iconoclaste. Il a fallu un nouveau. Entre-temps, il y a eu donc. Je passe un peu sur les questions dynastiques, mais il y a eu un nouveau synode iconoclaste en 815 qui a eu lieu donc dans la basilique Sainte-Sophie à Constantinople. Et c'est seulement donc en 843 qu'une autre régente, hein, ce sont beaucoup les femmes qui ont œuvré pour la défense des images, la régente Théodora, va réunir de nouveau un certain nombre d'évêques qui vont proclamer ce qu'on appelle aujourd'hui le synodicone de l'orthodoxie. Et cette prononciation ultime va mettre fin à l'hérésie iconoclaste. Et encore aujourd'hui, eh bien, dans l'orthodoxie, hein, on fête la prononciation de ce dit synodicone lors du troisième dimanche de carême, il me semble. J'ai une mémoire de poisson rouge, hein, donc il y aura sûrement beaucoup de petites imprécisions dans ce que je dis, mais vous irez au besoin un jour vérifier. Mais voilà, c'est une fête toujours dans l'orthodoxie qui fête ce rétablissement des icônes comme ce qu'on appelle le triomphe de l'orthodoxie, ce qui va sceller de manière définitive la foi orthodoxe. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu, si vous voulez, ce dont on est à peu près sûr. Voilà. Mais au-delà de ça, en réalité, au-delà de cette sécurité-là, l'historiographie est en réalité assez partagée sur le fond de ce qu'a été cette hérésie et de ce qu'ont pu être ses causes. Et donc, je voudrais un petit peu vous dire dans un premier temps quels sont un peu les deux grands modèles qui s'opposent aujourd'hui. Il y a un modèle un peu plus classique et puis il y a le modèle contemporain au sujet de l'hérésie iconoclaste. Le modèle classique, et ces deux modèles, en fait, ils reposent l'un et l'autre. C'est ça qui est un peu compliqué et qui rend le fait d'entrer... Quand on entre, en fait, dans cette question de l'hérésie iconoclaste, on entre dans une sorte de forêt historiographique où tout est dit et son contraire, et où il n'est pas facile d'aboutir à une clarification. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une sorte de concurrence entre deux récits historiographiques qui sont finalement des récits assez classiques et que vous avez certainement tous entendus, en tout cas si vous êtes un tout petit peu intéressé à l'histoire des conciles ou à l'histoire de l'Église elle-même. Le premier récit, c'est de dire, il est relativement banal de dire que les premiers temps de l'Église étaient hostiles à l'art, hein, que donc il y aurait une forme d'hostilité venue du judaïsme et qui aurait fait qu'au départ l'Église n'a pas d'image et qu'elle va se mettre à en avoir par la suite. Et puis en même temps, de manière concomitante, on acceptait jusqu'à il n'y a pas si longtemps, de manière tout aussi paisible, un deuxième récit qui est de dire que l'hérésie iconoclaste est venue troubler un ciel relativement paisible, le ciel où l'Église vivait avec un certain nombre d'images du Christ, de la Vierge et des saints. Et donc, si vous voulez, on voit bien que ces deux récits sont pas si faciles que ça à accorder. Et on va voir que d'une certaine manière, si on veut accorder son crédit à l'un des récits, il faut d'une certaine manière renverser l'autre paradigme. Soit l'Église au départ avait quelque chose d'une affinité malgré tout avec les images qu'on peut réussir à retracer d'une manière ou d'une autre, et dans ce cas-là, c'est effectivement dans ces cas-là l'hérésie iconoclaste vient troubler un ciel qui était le ciel de ce qui était contenu à l'intérieur, déjà en tout cas qui était contenu dans la tradition livrée par le Christ. Soit l'Église était au départ tout à fait hostile aux images. Dans ce cas-là, il n'est pas si simple d'expliquer qu'elle ait finalement accepté les images. Et du coup, on est un petit peu plus embêté pour réussir à comprendre comment les choses fonctionnent. Voilà, j'arrête de vous partager mon écran parce que, en gros, je pense que vous aurez noté toutes les dates. Et donc, je reviens à la position d'ensemble. Alors, du coup, je voudrais d'abord un petit peu vous dire ce qu'a été la position historiographique classique, qui peut se résumer donc à une citation donc d'un historien orthodoxe, hein, qui s'appelle Georg Ostrogorski. Et donc, je vous lis c'est une citation assez brève, mais qui résume très très bien la position historiographique classique. Je le cite, « L'iconoclasme est né dans les régions orientales de l'Empire byzantin et il est né de la conjonction entre une conception rigoureusement spirituelle de la foi chrétienne et des doctrines de certains sectaires iconoclastes. Elle est aussi la conjonction entre les modes de pensée des anciennes hérésies christologiques et de l'influence des religions non chrétiennes, le judaïsme et avant tout l'islam. » Donc vous voyez que ça fait beaucoup de choses en un seul récit. Donc je redis ça un petit peu. Donc déjà un lieu de naissance, les régions orientales de l'Empire, et puis la conjonction donc entre une conception rigoureusement spirituelle de la foi chrétienne, des doctrines sectaires iconoclastes, des modes de pensée des anciennes hérésies christologiques et l'influence des religions non chrétiennes, le judaïsme et plus encore l'islam. Alors, selon cette version, si vous voulez, c'est en fait la dynastie isaurienne, donc Léon III et Constantin V, qui auraient fait pénétrer donc, à Byzance des questions relativement orientales. Et donc, selon cette position historiographique-là, on va souvent dire que, en gros, Léon III et Constantin V étaient un peu des crypto-monophysistes. Donc, si vous avez déjà étudié les autres hérésies, vous savez ce qu'il en est. Hein. Donc, c'est vraiment l'idée que le Christ a simplement une nature divine en lui. En tout cas, que la nature divine absorbe quelque chose de la nature humaine. Enfin, il y a différentes positions monophysistes, il y a différentes harmoniques du monophysisme. Mais en gros, on peut le résumer de manière un peu brutale à cette version. Et donc, qu'ils auraient donc eu une sorte de réticence à ce qu'on représente, le Christ, puisque de ce fait, en représentant le Christ, eh bien, on aurait, alors c'est là que les interrogations de Constantin V interviennent. Constantin V hein, va dire, dans une certaine mesure, que quand on représente le Christ, soit on prétend représenter la nature divine, et dans ce cas-là, on commet à la fois une forme de sacrilège et d'idolâtrie, de prétention à mettre la main sur Dieu, soit on prétend seulement représenter la nature humaine, mais dans ce cas-là, on crée une dissociation entre nature humaine et nature divine, et dans ce cas-là, on cède à une autre hérésie qu'on appelle le nestorianisme. Voilà. Donc, il y aurait quelque chose qui viendrait en fait de cette partie de l'Empire byzantin. Il y aurait aussi une influence de l'islam, puisque je rappelle que les parties d'Asie mineure sont conquises au fur et à mesure par les musulmans, et qui pour le coup sont hostiles aux images, et qu'à partir de là, il y aurait une sorte d'influence aussi qui jouerait sur l'hérésie iconoclaste. Et puis, bien sûr, on parle de cette conception rigoureusement spirituelle de la foi chrétienne, donc l'idée hein, qu'il y aurait une sorte de vénération du Dieu caché, une conception selon laquelle on ne peut absolument pas le représenter et qui, de ce fait, garderait un certain accord avec la position, là encore, qu'on peut attribuer à l'Ancien Testament à travers le verset 4 du chapitre 20 de l'Exode, hein, où il est dit qu'on ne fera pas d'image. Voilà, hein. Donc, si vous voulez, ce premier récit-là, il va donc conjuguer un petit peu tout ça pour dire, voilà, c'était un peu la thèse qui était soutenue, pour dire, ben en fait, voilà, c'est une sorte de cocktail hérétique, si l'on peut dire, qui a conduit les empereurs à mettre fin à l'existence des images. Voilà. Et donc, à partir de là, voilà, on a ce récit un peu classique, voilà, et où, du coup, ben, dans ces cas-là, le deuxième concile de Nicée vient rétablir la position orthodoxe originelle, et comme ça, on est un petit peu tranquille. En réalité, de manière plus contemporaine, on a beaucoup remis en cause ce récit-là, au nom précisément du fait que l'Église aurait été originairement une église aniconique, non pas nécessairement iconoclaste, mais en tout cas une église sans image, une église relativement hostile à la représentation parce qu'elle émergerait du judaïsme. Alors, à partir de là émerge un deuxième modèle historiographique qui peut être très bien résumé donc, par un des spécialistes français du monde byzantin, qui est Gilbert Dagron. Et là, je vous le cite aussi parce que vous allez voir que c'est tout à fait opposé comme récit. Lorsque Léon III promulgue officiellement en 730 son édit interdisant le culte des images, ni la défiance ni la dévotion à l'égard de ces dernières ne sont une nouveauté. Il n'y a pas une hérésie et une orthodoxie, mais un choix resté ouvert entre deux orthodoxies. Il n'y a pas une innovation et une tradition, mais il y a l'opposition de deux traditions. Donc, vous voyez la grosse nuance, c'est qu'on va considérer que bon, ben, des choses un peu différentes ont cohabité au sein de l'Église et que finalement, au 8e siècle, l'Église va faire une sorte de choix tardif en faveur des images, un choix qu'on va souvent attribuer aujourd'hui. Là, je vous, je vous, je vous donne celle qui promeut cette thèse. Alors, je suis complètement contre ce qu'elle raconte, mais voilà, qui s'appelle « L'image contestée » d'Emanuela Fogliadini, qui va finalement dire tout ça, en fait, c'est la pression du peuple, mais en fait, les évêques à Yéréia, donc les évêques iconoclastes, c'était des gens extrêmement sophistiqués qui avaient une position sur cette, extrêmement élevée et intelligente sur une conception parfaitement spirituelle, justement, de la foi chrétienne et de la relation à Dieu qui ne peut pas être réduite à des images. Bon, voilà, donc on nous dit qu'il y avait deux orthodoxies concurrentes. Je peux même préciser ce que dit Gilbert Dagron par une autre citation où il dit « Il y avait d'un côté une orthodoxie négative qui dénie la validité de toute représentation du Christ et une orthodoxie positive qui en fait un acte de foi. Voilà, » qui dit ben, « C'est possible dans la foi de représenter le Christ. » Voilà. Donc, si vous voulez, on est un petit peu embêté avec ces deux récits parce qu'on se dit ben, « comment faire exactement, comment tenir les choses ?» Et si vous voulez, si on adopte ce deuxième récit, qui là encore est quand même très largement populaire aujourd'hui en réalité, hein, même c'est un peu celui qui est le plus répandu, eh bien voilà, le choix des images est un choix tardif de l'Église qui ne correspond pas en fait à sa pente originaire. Et dans cette perspective-là, on va notamment interpréter ce qu'on va appeler, ce que je ne vous ai pas mis dans la chronologie, mais ce qu'on va appeler en Occident la réticence occidentale vis-à-vis des images. Il va y avoir donc deux choses très importantes de ce point de vue-là en Occident. Le concile de Francfort en 794, donc réuni un petit peu à l'instigation de Charlemagne, et qui est un concile qui critique l'usage des images, ou en tout cas qui en fait un usage beaucoup plus annexe. Et puis ce qu'on a appelé les Libri Carolini, les fameux livres carolins, hein, dû à Théodulphe d'Orléans, sont une série de réfutations, notamment en fait d'un certain nombre des arguments nicéens, de Nicée II. Hein. Alors là encore, si vous voulez, ce second récit historiographique vient donner l'idée, hein, que ce serait un peu finalement, si l'Occident est réticent, c'est que l'Occident n'a pas tort, parce qu'en fait c'était relativement tardif, il faut que les images restent très annexes et elles n'ont certainement pas de capacité à dire Dieu. Si vous voulez, ce deuxième récit, eh bien, il va quand même beaucoup occuper l'espace. Et il va l'occuper d'autant plus que là encore, hein, autant les interrogations de Constantin V, nous allons le voir, ont un poids dans l'histoire de cette hérésie, autant les Libri Carolini aussi, parce que d'un côté, en fait, on en a détruit énormément d'exemplaires, mais on en a gardé. Ça a été redécouvert pour la plus grande joie des historiens, et donc il y a eu toute une série de thèses là-dessus, et il me semble en fait qu'on assiste un peu à un cas d'hypertrophie historiographique, si vous voulez, sur un livre qui en réalité a eu très très peu d'impact historique, mais que nous redécouvrons au XXe siècle et dont nous faisons quelque chose de très important. Et en réalité, une des plus grandes spécialistes des livres carolins, qui s'appelle Freeman, rappelle que très vite le pape Adrien avait en réalité écrit pour soutenir Nicée II directement auprès de Charlemagne, en disant que le pape soutenait absolument Nicée II, que le pape avait lui-même envoyé deux légats à Nicée II, et que donc, en réalité, très vite, la plupart des exemplaires des livres carolins ont été détruits et ils ont eu très très peu d'impact sur l'art d'Occident. Il faut vraiment aller à Germigny-des-Prés pour voir la fameuse fresque qui est due à Théodulphe, qui est reprise dans le livre d'Olivier Boulnois, hein, qui s'appelle « Au-delà de l'image ». Et alors, c'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est une image tout à fait… Donc, on voit des chérubins, vous voyez, des chérubins qui sont près de l'Arche d'Alliance, voilà, mais on ne représente pas Dieu. Hein, et donc, mais là, si vous voulez, un cas d'iconographie due au livre carolin, ben c'est celui-là. Mais en gros, il n'y en a qu'un seul quand même. Donc voilà, il faut quand même accepter que ça a un impact finalement relativement faible sur l'historiographie. Et donc, si vous voulez, pour moi, en tout cas, une de mes difficultés face à cette question historiographique de Nicée II, ça a été de me dire, si vous voulez, on gagne peut-être... comment est-ce qu'on résout cette question de ces deux récits, de ces deux grands récits qui nous parlent de l'hérésie iconoclaste avec finalement des positions très très différentes. Il me semble que le premier récit peut avoir une certaine pertinence en réalité. Je pense qu'il y a une sorte de simplicité du premier récit, notamment quand il se pose la question de l'influence de l'islam. Pas tellement parce que l'islam aurait directement influencé les empereurs isauriens, donc Léon III et Constantin V, mais parce que l'islam est vainqueur, tout simplement. L'islam est vainqueur contre l'Empire byzantin. Et quand on perd des batailles, eh ben on va voir, on ouvre sa Bible quand on est dans un monde chrétien comme l'était le monde byzantin. On ouvre sa Bible, et dans sa Bible, qu'est-ce qu'on voit ? Quand est-ce qu'Israël perd des batailles face à ses ennemis ? Ben, Israël perd des batailles quand il est idolâtre. Et donc, il me semble qu'il y a quelque chose finalement d'assez simple en réalité dans la position des empereurs. Au départ, de Léon III, qui n'a pas tellement formulé de théologie, mais qui se contentait de retirer les images, il y a très certainement une sorte de... En tout cas, il est très plausible qu'il y ait une réaction à ces défaites successives de l'Empire byzantin face aux poussées de l'islam. Et à partir de là, eh bien, une forme de désir, certains désirs, une manière en tout cas de vivre une conversion à l'échelle de l'Empire en supprimant les images, voilà, en décidant qu'on va supprimer l'ensemble des images. Et c'est seulement avec Constantin V qu'on va aboutir à un certain nombre donc d'objections, donc je l'ai cité tout à l'heure, hein, l'idée que soit on prétend représenter la nature divine, mais c'est pas possible et ça marche pas parce que, enfin, en tout cas dans ces cas-là, on est à la fois blasphématoire ou idolâtre. Soit on prétend représenter seulement la nature humaine et dans ce cas-là, on disjoint en Christ les deux natures. Et donc à partir de là, c'est sûr que Constantin V va poser un deuxième problème à l'historiographie. Mais pour le moment, j'en reste simplement à ce qu'a fait Léon III, qui était de détruire les images, pas seulement du Christ. C'est pour ça que c'est très important, c'est que s'il n'y a que les images du Christ, bon, bah, les questions théologiques de Constantin V sont très importantes. Mais il se trouve qu'on ne détruit pas que les images du Christ. On détruit les images de Marie, on détruit les images des saints, et on va garder simplement l'iconographie iconoclaste, on va garder des images qui parlent de nature, des images profanes, et les images de l'empereur notamment. Donc, ce n'est pas toute image, mais c'est toute image qui peut renvoyer à Dieu et au saint. Donc, il y a quand même, en tout cas, une destruction plus large. Voilà. Ce que nous apporte en revanche le deuxième récit, c'est que le deuxième récit, il réintroduit quand même une forme de complexité. Voilà. Et le mérite de ce deuxième récit, il me semble, c'est que parfois dans le premier récit, il y a quelque chose de trop simple, où on a l'impression que finalement les icônes étaient là avec déjà une théologie presque toute faite. C'est un peu les icônes qui ont été détruites. Et en réalité, il me semble que ce renversement historiographique, il vient remettre justement en cause aussi une théologie un peu irénique des icônes qui en réalité n'a été formulée que beaucoup plus tard, qui a été vraiment scellée au XIIe siècle. Donc il vient dire dans le début, dans les images qui étaient à la disposition de l'Église au point de départ, il y avait surtout un certain nombre d'images. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'elles avaient vraiment un statut ? Ben, ils disent, ben, au départ, on les faisait, mais est-ce qu'elles avaient un statut très arrêté ? Il est difficile de conclure pour le moins. Donc, si vous voulez, à partir de là, on est un peu obligé de se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Et donc, il me semble, en tout cas, que la position la plus juste, hein, c'est de montrer, alors déjà, c'est de faire attention que les premiers récits dans l'Église qu'on va avoir, les récits des pères de l'Église, qui vont effectivement avoir un certain nombre de propos qui vont être hostiles aux images et qui vont donc qui ont apporté cette espèce d'idée, hein, d'une Église qui aurait été originairement hostile aux images. En réalité, la plupart du temps, les pères vraiment se posent la question de l'idole. Hein. Donc en réalité, tout le monde au moment de cette crise va utiliser le matériau des pères de l'Église et va l'utiliser un peu à sa sauce en l'utilisant de manière très contemporaine, en le rapatriant vers soi. Mais en réalité, quand on regarde ce que disent les pères anciens, il y a en réalité que trois références vraiment qu'on peut considérer comme vraiment hostiles aux images. Les autres sont plutôt une sorte de question des idoles, mais on parle beaucoup plus des idoles païennes. Et ce que va faire le récit historiographique qui prétend que l'Église était au départ hostile aux images, qui est en réalité un récit assez proche en fait de l'historiographie réformée, c'est ils vont utiliser un certain nombre donc de ces écrits des pères de l'Église et les transposer dans un contexte qui n'est pas le leur. Et en réalité, bon, on peut ramener à trois. Les références vraiment hostiles à l'art dans les textes anciens. Il y a le canon 36 du concile d'Elvire, qui est vers 300, et on a du mal à savoir exactement comment il faut l'interpréter en réalité. On manque tellement de contexte pour ce concile que bon, on peut au minimum laisser un point d'interrogation. Il y a la lettre à Constantia d'Eusèbe de Césarée, qui est effectivement une lettre relativement iconoclaste, mais elle a été écartée d'emblée à Nicée II au nom des sympathies ariennes d'Eusèbe. Donc, si vous voulez, ça n'en fait pas un témoin de l'hostilité aux images particulièrement crédible. Et les derniers écrits qui sont hostiles aux images, et dont là, pour le coup, on considère qu'il y a une forme d'hostilité, ce sont les écrits d'Épiphane de Salamine. Mais si vous voulez, cette hostilité aux images en tant qu'image, elle est extrêmement minoritaire dans les premiers temps de l'Église. Et donc là, il revient en fait à une religieuse catholique qui s'appelle Mary Charles Murray, mais qui se faisait pendant longtemps appeler Sœur Charles. Donc c'était un peu perturbant dans les recherches. Donc maintenant, elle écrit plus sous le double nom de Mary Charles Murray. Et donc c'est elle qui a un petit peu exploré tout ce matériau historiographique. Et il me semble qu'en tout cas, elle a raison quand elle vient de dire que à la fois ces documents donc vraiment iconoclastes peuvent être pris au sérieux, mais en même temps ils sont en très petit nombre et ils manifestent en fait que dans l'Église on peut considérer que dans les tout premiers temps de l'Église il y a d'abord eu beaucoup plus une attitude essentiellement réceptive vis-à-vis des images et où peu à peu en fait l'Église assimile les codes artistiques ambiants et ensuite elle va se mettre à les formuler dans un langage qui va finalement être celui à la fois des catacombes, des premières images, mais en réalité donc elle va utiliser dans un premier temps, elle va être réceptive sans nécessairement le faire, mais on pourrait dire en utilisant une distinction blondelienne que l'implicite vécu excède l'explicite connu et que l'explicite connu va simplement porter à l'explicite ce qui était déjà vécu dans l'action de l'Église. Et on peut considérer que les premiers temps de l'Église, de même qu'ils n'ont pas d'abord tout de suite mis à l'écrit le Nouveau Testament, ont été dans cette attitude de réception du mystère du Christ. Une réception du mystère du Christ qui a été à la fois une réception par le récit, mais aussi par le visage de ceux qui l'avaient vu, l'avaient côtoyé, etc. Et c'est très intéressant, il me semble, en tout cas, de voir que c'est au moment, en fait, il va y avoir, évidemment, la première chose, c'est les mises à l'écrit, sont premières pour la mise à l'écrit du Nouveau Testament, mais il va y avoir, de manière quand même assez rapprochée, les premières images qui vont apparaître. Et donc, on peut considérer, si vous voulez, et c'est pour ça que je crois que le récit, en tout cas, que moi, je pense le plus juste, c'est que l'Église contenait en son sein une disposition absolument favorable aux images et marquée évidemment par le visage du Christ lui-même. Et que c'est ça qui nous permet à la fois d'accueillir une certaine complexité dans l'accueil des images, un accueil progressif, et en même temps de tenir que l'hérésie iconoclaste est bel et bien une hérésie, elle est bel et bien une rupture, elle est bel et bien une innovation, et que ce qu'elle vient abîmer, eh bien, c'est la plénitude du dépôt de la révélation. Et que donc, si à travers cette espèce de controverse historiographique, ce qui apparaît toujours plus, c'est que le but de Nicée II, c'est de préserver la plénitude du dépôt de la révélation. Un dépôt qui ne peut pas se dire seulement par la parole, mais qui doit se dire par la contemplation de ce qui nous a été donné de voir de la chair du Christ. Voilà. Et que donc, au fur et à mesure, l'apparition des images, eh bien, va être va être, si vous voulez, la mémoire qui s'active, qui s'explicite, de la même manière qu'elle est gardée dans le Nouveau Testament, eh bien, la mémoire du visage du Christ va elle aussi s'expliciter au fur et à mesure des premières icônes. Alors, premières icônes dont il faut bien dire que nous ne conservons quasiment rien, hein, puisqu'elles ont été massivement détruites par la crise iconoclaste. Donc, si vous voulez avoir une iconographie antérieure à la crise iconoclaste, il faut soit aller à Rome, dans les grandes basiliques romaines, et là, vous trouvez toute une série de grands cycles iconographiques romains qui n'ont pas été touchés, puisque l'Occident est resté tout à fait iconophile de manière paisible. Ou alors, il faut aller à Sainte-Catherine du Sinaï, hein, et ce n'est pas pour rien que l'icône du Christ donc de Schönborn est illustrée donc, par ce Christ que vous connaissez certainement, hein, qui est une icône voilà, qu'on peut faire remonter a priori au 5e, 6e siècle, qui est une icône qu'on peut qualifier de chalcédonienne, hein, puisque vous voyez qu'un des yeux du Christ est l'œil du Pantocrator, un œil fixe, tandis que l'autre œil regarde vers le haut, exactement comme quand le Christ regarde vers son Père. Il y a une sorte de traduction visuelle un peu étonnante de la double nature, mais en tout cas, on peut considérer que c'est une icône à visée chalcédonienne, ça, de manière assez paisible. En tout cas, c'est une traduction peut-être un peu gauche et en même temps merveilleuse et de ce qu'est d'une image du Christ. Voilà. Donc, pour prolonger un tout petit peu, alors sauf que là, il est déjà, voilà, je vais prolonger très très brièvement, donc, parce que le but c'était de parler de l'hérésie, hein, donc je vous ai un peu déployé le grand panel de ce qu'on peut dire de cette hérésie aujourd'hui. Bon, il faut quand même que j'arrive un tout petit peu à la question de l'orthodoxie, parce que ça paraît quand même utile à la fin. Comment est-ce qu'on va chercher à résoudre la crise iconoclaste, en tout cas à y répondre? Donc la somme là-dessus de la réponse classique, je vous l'ai dit, c'est le livre de Christophe Schönborn. En réalité, Christophe Schönborn, sa thèse, ça va être de dire: celui qui conduit l'hérésie iconoclaste à son sommet, c'est Constantin V. Parce que Constantin V amène l'hérésie iconoclaste à la vraie question, qui est la question de la représentation du Christ. Et il va donc dire cette espèce d'aporie que je vous ai citée, qui ensuite va mettre dans l'embarras, selon Christophe Schönborn, va mettre dans l'embarras les pernicéens, qui vont avoir du mal à répondre à cette hérésie, parce que il n'arrive pas très très bien à articuler ce qui est représenté. Donc il va y avoir toute une série d'arguments iconophiles où on va dire en fait, quand on représente le Christ, on le représente tel qu'on l'a vu dans la chair, mais Christophe Schönborn va dire finalement tout ça c'est pas concluant, parce que de fait on n'arrive pas bien à articuler. On dit en fait, dans sa nature humaine, ce qui se laissait voir c'était sa nature divine. Et donc, on peut représenter quelque chose de la nature divine à travers la nature humaine. Mais Christophe Schönborn dit non, il y a une pertinence de ce que dit Constantin V. Et en fait, la seule solution possible pour réussir à articuler les choses, c'est à travers Maxime le Confesseur qu'on va pouvoir le faire, c'est-à-dire de comprendre déjà que les deux natures du Christ font que l'hypostase de Jésus, la personne de Jésus, est une hypostase qui se compose, qui devient auquel concourt qui en hypostasie plus précisément, parce que concourir c'est déjà un verbe un peu compliqué sur le plan de la justesse théologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne divine a une nature humaine, voilà, et qu'en même temps elle en hypostasie aussi, elle assume de manière absolument plénière une nature divine et une nature humaine, et la nature humaine du coup va communiquer ses propres propriétés à l'hypostase du Christ. Et ce qui est représenté dans l'image, ce n'est ni la nature humaine ni la nature divine, mais ce qui est représenté, c'est le caractère, c'est-à-dire ce qui nous définit comme personne humaine. Le visage va être ce qui traduit charnellement la personne. Donc, ce qui est représenté dans le visage du Christ, ce n'est pas tellement sa nature divine, ce n'est pas tellement sa nature humaine, mais c'est plutôt, il faut dire, sa personne divine en hypostasiant une nature humaine, et donc rendue visible sa personne totalement rendue visible dans une humanité à la fois absolument pleine, même si elle n'est pas semblable à la nôtre, ou en tout cas, même si elle n'est pas, on ne peut pas l'aligner de manière absolument identique à nous, puisque c'est la personne divine qui est en hypostasie la nature humaine. Et donc, si on s'en tient à ce schéma-là, effectivement, on a l'impression que Nicée 2 ne résout pas complètement les choses, ou plutôt qu'il les résout un peu par miracle. Hein, je vous cite un passage de ce que dit Nicée 2. Hein, je vous ai dit on expose les images, on leur voue baiser et vénération d'honneur, on leur offre encens et lumière, et en même temps, on nous dit que l'honneur rendu à l'image. Et on peut le faire cela parce que l'honneur rendu à l'image parvient au prototype, et celui qui vénère l'image vénère en elle l'hypostase de celui qui y est représenté. Et alors, en disant ça, Christophe Schönborn, il est un peu embêté parce qu'il dit « Ah ben, vous voyez, finalement, ils ont eu la solution théologique, mais on ne sait pas très bien comment, c'est un peu par surprise, ils ont balancé ça. » Bon, en gros, on a un peu l'impression que c'est un peu par miracle qu'il y a eu cette formule tout à fait juste, d'une justesse extrême. Et donc, il va du coup ensuite, lui, retracer dans son livre la longue explicitation de ce qui était contenu, donc grâce à la notion d'hypostase composée de Maxime le Confesseur, et comme nous le rappelait Florent, qui est décidément celui qui a la mémoire providentielle, c'est Théodore Studit qui va, à partir de là, vraiment formuler, selon Christophe Schönborn, la solution ultime à la question des images. Voilà. Et donc, si vous voulez, c'est un peu comme ça qu'en gros, on résolvait la question des images. Voilà. Donc, pour vous la faire très brève, pour vous faire en 3 minutes ce qu'est ma thèse, elle dit qu'il ne faut pas juste lire le Denzinger. Elle dit qu'il faut aller lire les prononciations conciliaires en entier. Parce que dans le Denzinger, on ne reproduit pas un paragraphe assez complexe, même tout à fait complexe, qui clôt en fait la grande profession de foi. Si vous voulez, je pense qu'on vous a sûrement parlé de la manière dont sont composées les prononciations conciliaires, mais entre guillemets, s'il y a un genre littéraire de la décision conciliaire, il y a toujours un petit prologue théologique, il y a une explication de pourquoi le concile a été convoqué, et ensuite, il va y avoir une confirmation de la tradition, et dans cette confirmation de la tradition, on va toujours réciter le credo à un moment donné, et puis ensuite, on va prendre une décision. Ce qui est reproduit dans le Denzinger, en réalité, c'est la décision pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire compte tenu de la foi que nous avons confirmée ? On va exposer les images, on va leur vouer une vénération, on va leur offrir des lumières et de l'encens. Mais simplement, on est passé sur un paragraphe qui clôt la proclamation de la foi dans le concile de Nicée II. Et pourquoi ? Parce que, à mon avis, les trois quarts des théologiens, on va voir dans le Denzinger, parce que ça va plus vite, mais du coup, on ne voit pas, et donc on a besoin de nos amis allemands qui font des grandes éditions critiques. Et donc, je vous lis ce paragraphe qui est un peu complexe. Pour le dire en bref, disent les pères, nous gardons sans rien innover toutes les traditions de l'Église, qu'elles aient été décrétées pour nous par écrit ou autrement que par écrit. L'une d'entre elles consiste notamment en l'expression du modèle à travers la représentation par l'image. Donc, en gros, si je résume, parce que l'expression est très complexe en elle-même, mais en gros, l'une d'entre elles consiste dans l'image, en tant qu'elle entre en consonance avec l'histoire de la proclamation de l'Évangile. Donc, en tant qu'elle entre en consonance avec une historia, avec un récit, avec une mise à l'écrit de la proclamation de l'Évangile. Donc, vous voyez que les pères disent précisément ce que je vous ai dit au départ, c'est-à-dire, ils disent l'image est juste quand elle concourt avec ce qui a été gardé aussi dans le dépôt écrit, dans l'historia de la proclamation de l'Évangile, dans ce qui va être au fur et à mesure mis à l'écrit. En même temps, c'est très intéressant parce que, si vous voulez, le terme historia, dès l'époque de Nicée II, peut désigner des images, des grandes fresques murales. Donc, les pères, ils n'emploient pas ce terme n'importe comment. Mais donc, une de ces traditions, transmise par écrit ou autrement que par écrit, c'est-à-dire à travers la vie même de la tradition de l'Église. L'une d'entre elles consiste en l'expression du donc en l'image, en tant qu'elle entre en consonance avec l'histoire de la proclamation de l'Évangile, en vue de confirmer l'incarnation du Verbe de Dieu, véritable et non selon l'apparence, donc là il cite Constantinople III, et qu'elle contribue pour nous à un profit semblable. Et là il termine en disant « Car les choses qui se désignent l'une l'autre se réfléchissent aussi l'une l'autre avec une grande clarté quant à leur signification. » Donc ces choses qui se réfléchissent l'une l'autre, ça va être quoi ? Ça va être les images et le récit de l'Écriture qui se réfléchissent l'une l'autre, qui se renvoient l'une à l'autre. Et quand elles le font, eh bien, elles produisent une clarté supérieure et une signification plus grande. C'est-à-dire que quand les deux sont ensemble, l'image n'a jamais été autant elle-même et le récit de l'Évangile n'a jamais été autant lui-même. Et donc, si vous voulez, à mes yeux, il y a, de manière beaucoup plus forte que simplement une question christologique, il y a, de la part des pères, une compréhension que pour dire le tout du Christ, il faut l'image et le récit. Il faut cette polarité de l'histoire et de l'image, de l'histoire et des images, pour réussir à dire le tout du Christ. Et donc, la question, ce n'est pas tellement de faire une application christologique, une application plutôt iconique de la christologie chalcédonienne, ce qui sera là serait un peu la thèse de Schönborn, mais qu'il y a plutôt, si vous voulez, le septième des grands conciles œcuméniques vient sceller quelque chose sur la forme de la tradition. Il vient nous dire comment la tradition se donne. Elle se donne par le récit de l'Évangile et par la chair du Christ perpétuellement, qui vient perpétuellement en fait redonner son actualité à ce récit. Parce que le récit, comme le dit très bien Paul Beauchamp dans ses commentaires bibliques, il dit le récit signe à la fois une présence et en même temps, quand on écrit le récit, c'est précisément la manifestation que l'histoire est passée. L'histoire que le récit raconte est une histoire qui est derrière nous, alors que l'image vient rendre son immédiateté à ce récit. Voilà. Et donc, si vous voulez, il me semble que ce que les pères ont compris que nous étions en train de perdre dans la crise iconoclaste, c'est l'actualité de la chair du Christ. C'est cette capacité de l'Écriture elle-même, d'être elle-même précisément parce que l'Écriture jaillit elle-même de la chair du Christ qui est à la charnière des testaments. C'est parce que le Christ est ressuscité, c'est parce que sa chair ressuscitée est apparue aux apôtres qu'il y a un Nouveau Testament mis à l'écrit ultérieurement. Mais au cœur de notre foi, de manière première, il n'y a pas d'abord un texte, il y a la chair ressuscitée de Jésus-Christ. Voilà. Je m'arrête là, parce que j'ai déjà été un peu long. Je ne vous ai pas du tout déployé toute ma thèse, mais au moins j'ai dit un petit peu ce que peut être une interprétation de Nicée 2. J'espère que c'est à peu près clair, voilà, parce que j'aurais aimé vraiment vous mettre les choses de manière plus linéaire, et je ne suis pas naturellement linéaire. Voilà. Donc c'est comme ça, j'espère que vous y retrouvez à peu près. Alors, merci. Place aux questions.
Merci beaucoup. Moi, je me pose une question, notamment sur le linceul de Turin, qui, je crois, on exposait surtout la tête. Est-ce qu'on sait, à cette époque-là, comment les gens réagissaient, du coup ? Enfin, je ne sais pas où ils se trouvaient à cette époque, d'ailleurs. Mais...
Alors, le linceul de Turin, je ne pouvais pas trop m'en servir, moi, dans ma thèse, parce que c'est très difficile d'en faire un argument théologique, mais il occupe quand même une note, parce que ça me semblait quand même être quand même quelque chose d'absolument incontournable. Ce qui est très difficile avec le suaire de Turin, c'est que du point de vue archéologique, il y a des dizaines de ruptures archéologiques, donc il émerge très, très tard dans l'histoire comme tracé de manière très sûre. On pense quand même que l'icône d'Édesse, il y a une histoire qui dit que le roi d'Édesse a voulu avoir un portrait du Christ et que le peintre n'arrivait jamais à faire ce portrait et qu'à la fin, le Christ a imprimé son visage sur une toile et que c'est celle-là qui aurait été exposée dans la ville d'Édesse pendant un certain nombre de siècles. Ensuite, très certainement qu'il passe par Constantinople, mais en réalité, on n'en sait pas trop et c'est finalement en Occident qui va émerger plutôt aux alentours, il me semble, du 13e siècle. Donc, c'est assez tardif. Et on n'a pas tellement d'idées de ce qui pouvait en être. À part, ce qu'on retrace quand même très probablement, c'est qu'on pense que le suaire était plié hein, et que souvent, quand il y avait une ostension, on faisait l'ostension du visage. Et que très probablement, ça a créé au fil du temps cette histoire de l'image d'Édesse. Et de fait, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites sur les icônes, les quelques icônes antérieures à la crise iconoclaste dont nous disposions, et qui voient un certain nombre d'affinités entre ce qu'on voit sur le suaire et les icônes elles-mêmes. Voilà. Après, moi, le suaire, là où je le trouve très, 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 très parlant, je vais essayer de vous retrouver ma note parce que ça m'aidera à vous en parler. Comme je dis, malheureusement, ma mémoire est une sorte de… C'est une course contre la montre. Vous voyez, j'ai quand même rendu ma thèse. Je l'ai soutenue le 24 novembre et je suis à peu près plus capable de me souvenir des dates des différentes personnes. Enfin, c'est quand même assez dramatique. Mais bon, voilà. En même temps, je me dis, je le dis tranquillement, pas comme une coquetterie, mais pour qu'on n'ait pas peur de nos graves faiblesses. Alors voilà, donc si vous voulez, en fait, donc Benoît XVI hein, dit des choses très intéressantes là-dessus. Hein. Dans une méditation, il va dire qu'elle est une icône du samedi saint. Et j'aime beaucoup ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de très, très juste. À la fois une icône du samedi saint et une icône de la résurrection. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que déjà, cette image est laissée à notre liberté. Donc, elle est l'image, pour moi, si vous voulez, elle est autant, si vous voulez, le dépôt écrit, le dépôt du Nouveau Testament est un dépôt canonique. Avec il y a un moment donné où il y a quand même un canon de l'écriture, même si je pense qu'il serait tout à fait étonnable que si on redécouvrait par hasard dans une nouvelle grotte de Qumran un livre qui est absolument en accord, mais plus tardive évidemment, parce qu'à Qumran c'est antérieur au Christ, mais qu'on découvrait, je ne sais pas, en Égypte, un livre mais ça pourrait être un livre de l'Ancien Testament d'ailleurs, mais qui soit complètement en accord avec la révélation, entre guillemets, le canon est une sorte de forme interne, de justesse interne, qui n'empêcherait pas qu'on rajoute quelque chose. Mais en gros, quand même, on a clos le canon de l'écriture à un moment donné. Donc, il y a quelque chose de canonique, précisément. Et pour nous, les images sont laissées libres. Alors, quand je dis ça, un orthodoxe dirait pas du tout il y a un canon des images. Mais moi, je ne suis pas complètement d'accord là-dessus avec la théologie de l'icône. Ma thèse cherche à être une thèse qui permet de penser à la fois les icônes et l'art d'Occident, mais ensemble. Mais si vous voulez, ce que je trouve très intéressant, c'est que du coup, au cœur, nous est laissée aussi une image libre du Christ, mais qui n'est pas une image au sens d'un positif, c'est une empreinte. Et donc, c'est une image qui laisse libre à plusieurs titres en réalité, parce qu'elle est à la fois une image de présence et une image de disparition, en fait, si vous voulez. On a quelque chose, alors si vous avez vu le suaire, moi je l'ai vu à Turin, lors d'une de ses ostensions, on a même eu la grâce de célébrer la messe devant avec des frères prêtres, j'ai été absolument saisi. C'est vrai qu'il y a une présence charnelle à travers ce simple linge et à travers ce qui apparaît au départ comme une ombre. Mais mon premier réflexe intérieur, je le livre comme ça, mais parce que c'est l'impression première, je me suis dit, Jésus était un gaillard. Il y a quelque chose d'une présence, oui, de quelque chose même, de quelqu'un d'assez costaud, enfin, et puis de grand, enfin, donc voilà, donc ça nous laisse une image, mais je dirais, en tout cas, si on la cherche à la penser comme statue d'image, déjà, s'il y a des images à Kairopoyette, donc il va être un des arguments orthodoxes en faveur des images, c'est-à-dire des images non faites de main d'homme, à mes yeux, il y en a surtout une, ça peut être le suaire. Après, les gens, on est assez libre aussi dans notre foi vis-à-vis du suaire. Moi, j'avoue que j'ai une grande foi dans cette relique de la passion et de la résurrection. Voilà. Mais en même temps, si vous voulez, c'est une silhouette dans le mouvement de son retrait. Donc, si vous voulez, ça laisse la place pour que les images de l'Église émergent. Voilà. Il y a quelque chose dans les images aussi d'une réponse de l'Église à la chair du Christ à chaque époque. Voilà, et je trouve intéressant que là-dessus, on soit pas, qu'en tout cas, elle ne nous soit pas imposée, cette image. J'espère que ça répond un peu à ta question, Ombline.
Merci beaucoup. J'ai une question, moi aussi.
Oui.
Merci beaucoup pour ta très belle conférence et ta thèse stimulante. Donc tu nous dis, mais si on n'avait que la lettre, il nous manquerait quelque chose. Si on n'avait que la lettre de l'Évangile, on a besoin de... On croit en la résurrection avec tout son corps, et donc aussi avec ses yeux et avec ses cinq sens. Mais est-ce que finalement tu ne tends pas à mettre les icônes un peu à la place des sacrements? Parce que moi, ce que tu disais, hein, de ce qui donne vie au récit et ce qui donne ce qui fait que c'est une rencontre de chair à chair, finalement, la foi de notre. Moi, je le mettais plutôt dans l'action du Christ, dans les sacrements. Alors, il n'y a pas concurrence, hein, et les icônes ont leur place dans la célébration des sacrements. Mais comment tu articules l'économie de l'icône et l'économie sacramentaire?
Alors, je repasse, je soutiens ma thèse une deuxième fois sous vos yeux. Parce que c'est une question qui reste irrésolue de manière volontaire, en fait, avec mon directeur de thèse, parce qu'on s'est dit que c'est une question tellement énorme. Alors, en même temps, c'est une vraie question, hein, donc c'est quelque chose qu'il faudra que j'affronte d'une manière ou d'une autre. Mais si tu veux, moi, je cherche à. C'est une action du Christ, si tu veux, qui est référée au dépôt. C'est-à-dire que c'est une actualité du dépôt, pour moi, l'image. Mais une actualité au sens où elle le rend vivant, elle permet de s'y relier. Comment dire ça? Les images, elles sont dans un lien à l'historia. Donc, je disais tout à l'heure que la justification classique, on dit pour l'image, c'est que l'image renvoie à son prototype. Donc, il y a une sorte, à travers ça, d'interprétation un peu platonicienne de Nicée 2, où en gros, à travers les images d'ici-bas, on remonte vers un prototype qui serait le Christ. En réalité, la polarité que les pères instaurent entre image et historia, elle vient dire autre chose. L'image, elle vient raviver l'histoire du Christ descendu dans la chair. Elle fait que chaque époque va réexprimer dans ses propres termes l'actualité de cette venue du Christ. C'est pour ça que, par exemple, une peinture du Caravage va être une peinture qui, à sa manière, avec son actualité de cette époque, bon, il se trouve que le Caravage nous reparle très très fort au XXIe siècle, mais pendant très longtemps, il a été complètement oublié, il n'a plus du tout parlé. Mais ça correspond à une manière qu'a le peintre, à travers aussi, il me semble, quelque chose d'une forme plus... Moi, je mettrais plutôt ça du côté des charismes, une capacité, en tout cas, à rendre présent quelque chose de la chair du Christ dans l'actualité et à travers ça surtout à redonner une espèce d'actualité au récit évangélique. Mais l'image en elle-même, bon, déjà les orthodoxes eux vont considérer que l'icône est un sacramental quand même, hein. Nous, je sais pas très bien, à vrai dire, toi tu connais mieux ton catéchisme de l'Église catholique que moi, donc tu pourras me le dire, et à vrai dire j'aurais peut-être dû aller regarder quand même en faisant une thèse là-dessus, mais je crois pas tellement que nous on accorde un statut aussi net aux images. Et moi, en fait, j'ai quand même tendance à dire l'image c'est pas le sacrement. Voilà, c'est quand même quelque chose de différent. C'est beaucoup plus relié. En fait, c'est relié à la lettre dans une certaine mesure. C'est une vivacité, une actualité de la lettre. Mais c'est pas. Je dirais qu'en elle-même, elle peut sans doute transmettre une certaine grâce. Mais si tu veux, on n'est pas dans l'objectivité de ce qui nous est donné dans les sacrements. Qu'est-ce que tu répondrais d'ailleurs? Parce que ça m'intéresse, ça me fait avancer plus loin.
De fait, je te rejoins, je suis pas complètement à l'aise avec la vision orthodoxe d'accorder un statut presque mystérique. Hein,
Moi, en tout cas, ma position, c'est pas ça. Hein. Ma position, c'est en tout cas de vraiment pas de dire, et même, j'avoue que ma position, c'est quand même de dire les icônes sont historiquement situées. Ça ne veut pas dire qu'après, je n'ai pas aussi une théologie de l'icône maintenant à réfléchir. Parce qu'on m'a aussi posé cette question-là à la soutenance. On m'a dit, mais alors, est-ce que l'icône est encore une icône? Est-ce qu'elle a encore un statut?
En tout cas, je trouve que ton insistance sur la liberté de l'image, ça fait un peu échapper au régime sacramentaire.
Oui. Mais parce moi, c'est vraiment ça. En fait, pour moi, l'image...
On est trop rigoriste pour les sacrements.
Oui, non, mais tout à fait. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire pour moi, en fait, j'ai tendance quand même à crever un peu l'espèce de mystique de l'icône, qui est une mystique largement reconstruite, hein, par ailleurs. C'est-à-dire que la théologie de l'icône, elle va se sceller vraiment aux alentours entre le 9e et le 12e siècle. Et elle a une reviviscence très forte, en fait, au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, au début du XXe. Mais en réalité, pour le coup, là, j'ai lu un certain nombre des théologiens orthodoxes de l'icône. Ils ne sont pas d'accord entre eux sur plein de choses. Alors, à la fois, ils disent « nous sommes tous de la grande tradition », mais c'est ça qui est merveilleux dans l'orthodoxie, c'est à chaque fois, ils disent tous « nous sommes hyper recta », donc tout a l'air hyper carré. Et à l'intérieur de ce cadre proclamé hyper carré, ils disent tous des trucs très, très différents. Hein, donc, il y a quand même là aussi une… Mais moi, j'ai quand même tendance à dire qu'au départ, ce qu'affirme Nicée II, ce sont les images. Et que la question de l'icône en tant qu'icône, elle va venir comme une réponse du monde byzantin parce qu'il a détruit ses images. Et que donc, à mes yeux, en fait, la canonicité de l'icône, c'est une manière, en fait, d'avoir comme intériorisé l'objection de manière très forte. Et donc, du coup, on se sent obligé de canoniser les images comme on a canonisé l'écriture. Et il me semble qu'en réalité, il y a quand même quelque chose de la position occidentale qui a quelque chose de plus juste. C'est-à-dire qu'elle accepte cette liberté d'une réponse ecclésiale au mystère qui va sans cesse se formuler de manière nouvelle. Et typiquement, à mes yeux, justement, ça nous fait regarder Saint-Pierre de Rome autrement. C'est-à-dire qu'on se dit, ben, Saint-Pierre de Rome, soit on se lamente en disant « regardez cette débauche de richesse qui nous a valu la réforme », soit on se dit « mais voilà ce qui se passe quand l'homme est tellement rétabli dans sa liberté qu'il peut répondre à Dieu avec tout ce qu'il est. » Et ben, quand il répond à Dieu avec tout ce qu'il est, eh bien, c'est Michel-Ange, c'est Bramante, c'est Raphaël, c'est cette espèce de débauche effectivement exubérante et avec aussi les risques d'ambiguïté et puis de nous enivrer en nous-mêmes. Hein, voilà. Mais il y a quelque chose de cette extraordinaire liberté de l'Église qui répond voilà, à chaque époque de manière nouvelle.
Moi, spontanément, mais peut-être c'est un peu affaiblissant, mais je ne mettrai pas la production des images tellement du côté de l'émetteur divin, mais du côté du récepteur humain, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une affinité profonde, mais anthropologique, hein, c'est peut-être trop philosophique ce que je dis et pas assez théologique, mais entre la capacité de l'homme d'écrire et de lire des récits, donc ce qu'on pourrait appeler une dimension narrative de l'humain. Paul Ricoeur nous dit qu'elle a quelque chose à voir avec la personnalité, parce que c'est par le récit qu'on sait ce qu'est une personne, et sa faculté imaginative, mais alors au sens le plus large du mot, c'est-à-dire imaginative même dans l'ordre des, comment dire, des fantasmes intérieurs, enfin des fantasmata médiévaux, mais aussi imaginative au sens où on peut faire des dessins, on peut faire des sculptures, on peut faire... et tout ça pour entendre un récit, en fait.
Oui, exactement.
Sans même tenir le pinceau, lire un récit fait que je suis déjà presque prédisposé à produire une image. Mais donc ça, c'est du côté du récepteur humain, tu vois, c'est comme ça que je...
C'est ce que je dis, hein. C'est ce que je dis, en gros, ma thèse, elle est quand même plutôt de sous cet angle-là. Et il y a aussi que ce que je dis, c'est que en réalité, pour que les images disent Dieu, il faut la séquence des images. En fait, la polarité des images et de l'historia fait consacre ce que l'histoire de l'art d'Occident va appeler l'iconologie, c'est-à-dire en fait une réponse des images entre elles, et il faut toutes les images entre elles pour pouvoir vraiment dire le Christ. Et ma thèse, si vous voulez, le premier chapitre, en gros, quand même, Nicée II fonde plutôt les choses sur la question, en tout cas tourne autour de la question de l'incarnation. Mon deuxième chapitre, il est autour de Balthazar, qui va faire passer les images à travers le mystère du samedi saint, et donc il faut quelque part qu'il y ait aussi une certaine mort, il y a une traversée. Et puis, ensuite, ma thèse, c'est de fonder les images beaucoup plus fortement dans l'apparition du ressuscité. Et donc, c'est de dire, mais il faut les trois, il faut l'ensemble, si on veut que les images disent Dieu. Et donc, il faut que de nous-mêmes, nous ne regardions jamais les images indépendamment de leur polarité avec le récit permanent de l'Évangile, qui reste pour nous, c'est quand même malgré tout l'accès canonique premier, mais en référence auquel, eh bien, il y a une sorte de à la fois d'asymétrie et de polarité qui s'établit et qui nous permet à travers ça, oui, de vraiment recevoir Dieu. Mais quand je vois une image qui me parle de Dieu, c'est toujours en réalité par une référence implicite, par un mystère implicite. Alors, il peut arriver qu'on soit très touché, mais il faut une œuvre de la grâce spéciale de Dieu pour que quelqu'un qui n'ait aucune idée de ce qu'est Jésus puisse débarquer et tout d'un coup être saisi et se mettre à croire. Ça peut arriver, mais enfin, il faut quand même, il y a quand même autre chose qui se passe. Mais en revanche, pour nous, qui nous mettons devant l'image hein, dans l'acte de la prière, en fait, nous réinvestissons sans cesse une iconologie implicite. Nous mesurons sans cesse l'image à ce que nous avons touché du Christ dans le récit du Nouveau Testament.
Merci infiniment, c'est passionnant. Ça me donne envie de lire ta thèse, qui n'est pas publiée encore, si ?
Alors, ma thèse n'est pas publiée, mais elle a été acceptée, là, ça y est, par le CER, là, par Cogitation.
Ah, bah, formidable.
Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et je vous livre une autre bonne nouvelle. Je ne vous cache pas que j'aurais aimé encore mieux, enfin, pas, non, vraiment mieux préparé, mais en fait, quelques minutes, le petit espace que j'avais pour préparer, en fait, j'ai reçu le mail, je viens de recevoir le prix Bellarmin, qui est la meilleure thèse de la Grégorienne de l'année,
toute
théologique confondue, donc pour cette thèse.
Mille bravo, Maxime. Mille
bon, bravo. Sachant que c'est la Grégorienne, j'en viens. Et j'ai bien aimé cette université, mais bon, voilà, ça reste modeste, mais en tout cas, c'est une petite récompense sympa
bravo.
À accueillir. Et donc, c'est tout frais. Donc,
merci,
voilà.
Maxime.
Voilà.
Bon, on va peut-être se quitter, je vois qu'il est tard. Merci infiniment de nous avoir donné tout ton temps.
Avec joie.
À très bientôt.
À bientôt.
Bon courage.